Soyez les bienvenus sur Radio Vallée-Vézère. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur Radio Vallée-Vézère, votre radio au cœur de la vallée.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Sarlat, votre spécialiste culture, CD, DVD, jeux vidéo et librairie, sur plus de 600 mètres carrés au cœur du Périgord noir. Retrouvez votre espace multimédia dans votre hypermarché Leclerc Sarlat, les deux gares. Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Dordogne sur mariemorin.fr.
Radio Vallée-Vézère,
la radio des trois provinces,
Périgord noir,
Pays de Brive,
Auquercy,
sur 104.4
et 98.5.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Radio Vallée-Vézère, où vous nous écoutez chaque lundi à 11h et 19h sur le 104.4 et 98.5. Pendant une heure, on va passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Et ça tombe bien, tout de suite, voici le sommaire.
On est vraiment bien.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire de cette nouvelle édition de Chut, on écoute la télé, dans un instant, notre invité d'honneur sera Jamy Gourmaud. Il est évidemment à l'affiche de C'est Jamy tous les jours sur France 5 à 16h55. Mais il sera également mercredi soir sur France 3 pour un nouveau numéro du monde de Jamy consacré au réchauffement climatique et aux montagnes. Il sera avec nous dans quelques tout petits instants pour en parler. Et puis nos coups de cœur télé de cette semaine, on va les dérouler tranquillement avec Eric Assinthe qui va venir nous parler de la série Les Rivières Pourpres qui fait son retour ce soir sur France 2. Dunia Cossins également viendra nous parler de La Doc et le Veto, la nouvelle série pour France 3 qui sera diffusée demain soir avec Michel Simès. Mélanie Baudran également sera notre invitée exceptionnelle pour Un Si Grand Soleil, mais aussi pour Section de Recherche, puisque eh bien, ça sera les deux derniers épisodes de la saison qui seront diffusés jeudi sur TF1. Et puis nous terminerons l'émission avec une page spéciale consacrée au Festival Numérique de Luchon. Cette année, c'est une nouvelle présidente, Emmanuelle Aymar, qui est aux commandes de cette édition. Elle sera notre invitée avec la présidente du jury fiction, Aïssa Maïga. Vous l'avez compris, c'est chargé. On commence tout de suite avec les audiences de la semaine dernière. C'est parti.
Les tops et flops d'audience.
Et on commence tout de suite par les audiences de lundi dernier. Il y avait Je te promets sur TF1 en tête avec 3 837 000 téléspectateurs pour 19% de part de marché. Intraitable sur France 2 fait un score correct avec 2 752 000 téléspectateurs et 12,6% de part de marché. La même soirée, M6 proposait une spéciale agriculture avec eux égale M6 qui dépasse les 2 millions de téléspectateurs et 9,4% du public. Mardi, rediffusion du téléfilm Le Pont du Diable qui arrive en tête avec plus de 4 millions de téléspectateurs et 17,6% de part de marché, soit est deuxième avec 3 734 000. Et Pékin Express eh bien, continue dans sa lancée avec 2 693 000 téléspectateurs et 13,7% de part de marché. On passe à mercredi, c'est Top Chef qui arrive en tête sur M6 avec 3 253 000 téléspectateurs et 16,2% de part de marché. Le retour de The Resident sur TF1 est au coude à coude avec 3 198 000 et La Faute à Rousseau est dans sa moyenne à 2 782 000 téléspectateurs. La ferme préférée des Français, elle, fait un tout petit score à 1 632 000 seulement. Et puis jeudi, il y avait Section de Recherche sur TF1 avec 4 916 000 téléspectateurs. La série frôle les 5 millions et 24,5% de part de marché. Et puis c'est En Thérapie sur Arte qui fait également un très beau score avec 1 300 000 et 5,5% du public. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière. Tout de suite, on accueille notre invité d'honneur aujourd'hui. C'est Jamy Gourmaud dans Chut, on écoute la télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé, le monde de Jamy, c'est un prime time exceptionnel qui vous attend. Ça sera donc mercredi sur France 3 qui sera consacré notamment au réchauffement climatique et principalement aux montagnes. Mais on va parler aussi au lancement, puisque ça c'est depuis maintenant 15 jours. Vous pouvez suivre cette nouvelle émission. C'est Jamy, c'est du lundi au vendredi à 17h sur France 5. Jamy Gourmaud est notre invité. Bonjour Jamy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors ça me fait très plaisir de vous avoir Jamy, parce que on apprend plein de choses avec vous tout le temps. C'est la première fois qu'on vous a dans Chut, on écoute la télé. Mais vous nous avez appris tellement de choses pendant toutes ces années à la télévision. Vous êtes un vrai puits de science.
sais pas si je suis un puits de science. En tout cas, j'aime bien partager le savoir. Pas que la science, d'ailleurs. On a souvent tendance à réduire le champ des connaissances que j'essaie de transmettre à la science, mais au bout du compte, moi, j'aime parler de tout, hein. J'aime parler de science, bien sûr, mais aussi d'histoire, de géographie, voilà, de littérature, de théâtre aussi, de cinéma. Voilà, je ne me restreins pas uniquement à la science.
Alors évidemment, cette nouvelle émission, c'est tous les soirs à 17h sur France 5. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, comment on pourrait définir le concept de cette quotidienne maintenant, Jamy ?
Ah ben écoutez, c'est une émission qui se déroule chez moi, dans mon atelier, et justement c'est une émission qui est destinée à aborder tous les thèmes que j'ai évoqués là il y a quelques secondes. C'est pas une émission de science, c'est une émission de connaissance où on essaie d'écrire notre quotidien, le monde qui nous entoure à travers justement ce prisme de la connaissance. Donc on regarde un phénomène, un événement qui est dans l'air du temps hein, au moment où est enregistrée l'émission. Et on tire les ficelles, alors on raconte un phénomène et puis on fait des pas de côté autour des légendes qui peuvent tourner autour de ce phénomène, d'événements historiques qui peuvent y être associés ou cinématographiques ou autres. Enfin, voilà, c'est une émission qui tire les fils de la connaissance dans tous les sens. Voilà.
Alors ce qui est bien, c'est que vous êtes entouré en plus d'une vraie bande de spécialistes qui peuvent justement étayer vos propos à chaque fois. C'est ça qui est intéressant aussi.
Alors, je suis pas tout seul, effectivement, et ça c'est très très intéressant parce que chacun des experts qui sont pertinents et parfois impertinents, hein, c'est ce qui est drôle à travers leur chronique, eh bien apportent leur pierre à l'édifice à travers un petit pas de côté sur une histoire particulière autour d'un sujet qu'on traite. Il y a quelques jours, on a traité par exemple, hein, on avait un dossier qui était consacré à la pleine lune. Et bien, on a Camille Gobert, l'une de nos experts, hein, qui est journaliste à Sciences et Avenir La Recherche, qui nous a fait une magnifique chronique sur l'influence de la pleine lune sur les naissances, par exemple. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a donc ces chroniques qui vont nous amener vers des pas de côté autour du sujet principal que l'on traite. Je vous donne un autre exemple hein, pour qu'on saisisse bien. On a fait une émission sur la météo et dans cette émission, eh bien, on a David Chemla qui est notre expert histoire qui nous montre comment la météo peut influencer l'histoire et notamment certaines grandes batailles. Voilà un peu comment on fonctionne.
Alors moi, ce que j'aime aussi avant tout avec vous, Jamy, c'est que je pense qu'on peut avoir n'importe quel âge, on comprend ce que vous dites, et ça, c'est votre marque de fabrique aussi. Et il est vrai qu'en se mettant dans ce carrefour de 17h sur France 5, cette émission se veut aussi accessible aux plus jeunes qui ont soif de connaissances, et ça, c'est vraiment aussi un pari pour France 5 et pour vous.
Alors, l'objectif, c'est, enfin moi, ça a toujours été mon objectif, hein. C'est pas de m'adresser à une catégorie particulière de téléspectateurs, à une tranche d'âge particulière. Moi, j'aime bien m'adresser aux profanes. J'ai toujours dit que le profane, eh bien, il pouvait avoir entre, on va dire, 6 ou 7 et 107 ans, vous voyez. Donc, il n'y a pas de tranche d'âge particulière visée. Je m'adresse à tout le monde. J'aime bien m'adresser à un public familial. J'aime bien savoir que devant l'écran, il va y avoir des enfants, des grands frères, des parents, des grands-parents, et qu'après tout ça va mijoter et que les sujets seront abordés ensuite en famille, à table, et que
ça débouchera
sur d'autres envies de connaissances.
Eh oui, et ça crée le débat en famille, et c'est ça qui est chouette aussi. On va écouter un petit extrait. Le monde de Jamy, c'est tous les soirs à 16h55 sur France 5. On écoute tout de suite un petit extrait.
C'est Jamy,
oui, bien sûr. C'est à 16h55 sur France 5. On écoute un petit extrait, on revient juste après, et on parle du monde de Jamy, là, qui va nous intéresser aussi. Ça sera mercredi soir, mais on y revient juste après avec vous, Jamy Gourmaud, qui est notre invité. À tout de suite.
Chaque jour, avec les réseaux, la radio, les journaux, nous croulons sous des tonnes d'informations. Que retenir? Comment les trier, les analyser? Eh bien, tous les jours, avec ma bande de chroniqueuses et de chroniqueurs, je vous accueille chez moi, dans mon atelier, pour vous donner des clés pour mieux comprendre le monde, les clés de la connaissance. Histoire, science, économie, environnement, technologie, tous les domaines deviennent notre terrain de jeu. Avec C'est Jamy, vous allez voir ce que vous voulez savoir.
C'est Jamy. Du lundi au vendredi à 16h55 sur France 5.
De retour avec Jamy Gourmaud. Donc c'est Jamy. On retrouve cette émission quotidiennement, hein, du lundi au vendredi à 16h55 sur France 5. On va parler du monde de Jamy. Le monde de Jamy va être consacré mercredi soir à la montagne, aux dangers qu'elle peut représenter aussi, au réchauffement climatique, ses causes, ses effets. On va découvrir tout ça dans une émission événement, et événement à plus d'un titre, puisque eh bien celui qui vous a emmené en expédition eh bien a trouvé la mort il y a quelques jours dans un accident de montagne, justement, et cette émission lui est dédiée, hein, justement, aussi, Jamy.
C'est ça, Xavier, avec qui donc j'ai arpenté quelques pentes de montagne sur lesquelles il étudiait des avalanches. Eh bien, Xavier nous a quittés il y a quelques jours. Xavier était un spécialiste de la montagne, un expert, puisqu'il est né, il y a grandi, il étudiait le manteau neigeux, et malgré toute sa connaissance, eh bien, la montagne a été plus forte que lui. C'est ce qui montre que, quand bien même ces pentes enneigées nous tendent les bras, il faut toujours, toujours se méfier de la neige.
Et oui, comme quoi personne est à l'abri, même si on prend les plus grandes précautions. Donc vraiment, c'est une émission qui nous permet évidemment de découvrir des paysages somptueux, mais aussi tellement fragiles. Et encore plus fragile aujourd'hui avec le réchauffement.
Oui, en fait, c'était l'idée de départ de cette émission. Quand on parle de réchauffement climatique, on a très souvent tendance à penser aux canicules et aux paysages d'été. En fait, le réchauffement climatique touche aussi la montagne, et touche la montagne en toute saison. Bien évidemment, l'été, avec la fonte des glaciers de plus en plus accentuée, mais également l'hiver, et également des structures auxquelles on ne pense pas forcément. C'est-à-dire que il n'y a pas que la neige qui souffre, et les glaciers qui souffrent du réchauffement. La roche elle-même souffre du réchauffement, et c'est ce qu'on montre bien dans cette émission. C'est que on est allé faire plusieurs mesures, donc avec des experts, qui montrent que finalement la température de la roche augmente. Et ça, c'est pas bon signe, tout simplement parce qu'il faut imaginer qu'en altitude, à l'intérieur de la roche, la température est négative, et que cette température négative transforme bien sûr de l'eau en glace, et cette glace sert de ciment à la roche. Et si la température augmente, eh bien, ce permafrost se désagrège, et donc la roche se désagrège. Et on a vu, hein, on le montre bien dans l'émission, que dans beaucoup d'endroits, eh bien, des pans entiers de montagnes s'effondrent et laissent des cicatrices très visibles. C'était vraiment l'objectif de cette émission, de montrer que ce réchauffement climatique qu'on a du mal parfois à percevoir, eh bien, il s'inscrit dans la durée, il marque profondément les paysages, particulièrement en montagne.
Alors, avec une quotidienne en plus, hein, là pour le coup, Jamy, vous avez préparé cette émission pendant un an. Vous avez suivi ces personnes qui tentent aujourd'hui de préserver, de protéger nos montagnes. Est-ce que pour eux, pour ces spécialistes que vous avez rencontrés, est-ce que c'est trop tard ou on peut encore faire quelque chose?
Alors, évidemment, il y a des phénomènes qui sont enclenchés, qui ne seront pas réversibles dans l'immédiat. Il va falloir du temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut qu'espérer que la hausse des températures soit contenue pour que les phénomènes ne soient pas trop importants. Malgré tout, il y a des choses qui sont enclenchées et qui ne vont pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Maintenant, tous ces spécialistes que l'on rencontre, eh bien, ils sont là pour comprendre comment évoluent les choses, comment évolue la montagne. Parce que face à ces paysages qui évoluent, eh bien, il faut savoir aussi comment l'homme va se comporter dans les années, comment l'homme va pouvoir vivre dans ces paysages qui changent. Et pour le savoir, eh bien, il faut comprendre ce qui est en train de se passer dans la montagne. On a parlé des avalanches il y a quelques instants. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, la neige ne se comporte plus comme elle se comportait il y a 20 ou 30 ans. Donc, il faut l'analyser, l'observer et comprendre comment aujourd'hui une avalanche se déclenche. Les conditions ne sont plus tout à fait les mêmes qu'il y a 20 ou 30 ans, je vous le disais. La neige ne se comporte plus de la même manière, et tout ça, eh bien, il faut en avoir conscience, et pour maîtriser les choses, il faut les comprendre.
Et on va découvrir ça dans ce film exceptionnel d'Emmanuel Pernoud avec vous, Jamy, et tous les explorateurs, dont Xavier Ravanna. Ça sera donc mercredi soir à partir de 21h05 sur France 3. Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer, bien évidemment. Et puis pour ceux qui n'auront pas pu aller à la montagne cette année skier, bien ça vous permettra aussi d'en comprendre peut-être les enjeux. Merci beaucoup, Jamy, d'avoir été avec nous.
Merci à vous, hein, merci à tous.
Et puis, Le Monde de Jamy, spécial réchauffement climatique, comment protéger nos montagnes, c'est donc mercredi soir, 21h05 sur France 3, et tout de suite, la bande-annonce. À bientôt, Jamy.
À bientôt.
Ludovic Ravanel est glaciologue. À 3800 mètres d'altitude, il descend en rappel pour prendre la température de nos montagnes. Avec le réchauffement climatique, elles sont aujourd'hui menacées. Comment faire face aux effets du climat sur nos montagnes ? Durant toute une année, été comme hiver, Jamy Gourmaud va les parcourir avec ceux qui, en première ligne, tentent de les préserver. Les avalanches. Avec la hausse du thermomètre, elles deviennent plus lourdes et plus destructrices. Jamy partira en expédition avec ceux qui les étudient au plus près pour nous en protéger. Nous verrons aussi comment, en laboratoire, on mène des expériences plus vraies que nature pour protéger nos habitations. Enfin, une nouvelle menace avec le réchauffement, les laves torrentielles. Ces coulées de boue qui se multiplient dans les Alpes.
A tout de suite avec Dounia Cossens, Eric Assinthe, Mélanie Maudran, Emmanuel Aymar et Aïssa Maïga. C'est tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. A tout de suite.
Est-ce que ça te dérange si je conduis vite ou est-ce que t'aimes le danger? N'aie pas peur, non, non, j'ai pas de cœur. Ouais, mais je prendrai soin de toi comme la recette d'un braqueur. Ouais, ouais, Atikio, pas homme de souk, mais homme de souk. Je fais des tonnes de billets, viens m'en prendre un petit peu, tu vois le Porsche. Je suis en dessous, je suis dans le zoo. Mais t'es la seule que je laisserai me descendre à petit feu. Angela, appelle-moi ce soir.
On écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coups de cœur télé pour les Rivières Pourpres qui font leur grand retour ce soir sur France 2 pour une troisième saison inédite. On va retrouver bien sûr notre commissaire Pierre Niemans, mais aussi notre lieutenant Camille Delaunay, incarné par Eric Assinthe, qui est avec nous. Bonjour Erika.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ça me fait plaisir de vous avoir, Erika. On a eu l'occasion de faire venir d'ailleurs un très beau film avec vous qui s'appelle À 2h de Paris, qui est disponible sur Netflix, un film de Virginie Verrier. Et là, c'est dans une toute autre aventure qu'on vous retrouve, c'est Rivière Pourpre pour sa troisième saison déjà. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement une toute autre aventure. Ceci dit, vous pouvez regarder les Rivières Pourpres et puis ces belles zones de soleil, de beauté, de liberté et de paysages magnifiques. Faire du bien après avec À 2h de Paris.
Exactement. Et surtout que c'est disponible sur Netflix en plus. Donc voilà, c'est accessible au plus grand nombre. Les Rivières Pourpres, alors c'est une série quand même particulière avec des enquêtes fortes. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, Erika, comment on fait pour décompresser le soir quand on tourne des scènes des fois difficiles?
Ben, pour décompresser en temps de Covid, c'est un peu plus difficile que d'habitude. Mais en réalité, en fait, elles sont beaucoup plus difficiles à regarder pour les spectateurs qu'à jouer pour nous. C'est-à-dire que les corps mutilés, les ambiances sombres et tout ça, nous, on les voit, on voit l'envers du décor. C'est-à-dire que les gens qui sont morts avec du sang partout et tout ça, on leur parle 2 minutes avant de faire semblant qu'ils sont morts et qu'ils nous font peur. Donc, c'est déjà dédramatisé pendant le tournage.
Et oui.
Voilà.
Et oui, effectivement.
C'est pour vous que c'est dur, en fait. C'est pour les spectateurs que c'est éprouvant. Je pense.
Alors là, on va vous retrouver en vacances sur la côte d'Opale. Évidemment, il va se passer des choses parce qu'autrement, ça serait pas drôle.
Ah bah oui, sinon c'est pas drôle.
Oui. Et puis là, c'est une série de meurtres, alors qui va mêler un peu l'astrologie, évidemment, à tout ça. Et puis bien sûr, eh bien Olivier Marchal va faire son retour, évidemment, pour venir épauler Camille Delaunay, qui ne peut pas laisser toute seule.
Ah bah non, évidemment, je l'appelle, il râle, mais il vient quand même.
Comment ça s'est passé votre rencontre à tous les deux avec Olivier lors de la première saison, pour le coup?
Alors, on s'est rencontrés pendant les auditions parce que moi, j'ai passé un casting. Et donc, on s'est rencontrés aux essais. Et je pense qu'après 2 minutes, même pas, après 1 minute, on avait un fou rire et on rigolait comme des fous. Et voilà, on s'est tout de suite très bien entendu, assez naturellement.
Qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans le projet des Rivières Pourpres? Vous aviez vu le film dont est tiré la série?
Alors, j'avais lu le livre, en fait.
Ouais.
J'avais pas envie d'avoir d'image.
Bien sûr.
Mais par contre, j'avais lu le livre, ça m'avait... J'avais adoré le début où, en fait, il installe que Niman, c'est vraiment dangereux, qui peut vriller et tout ça. Et puis après, hop, toute l'histoire se passe. Et du coup, en tant que spectateur, on a peur, en fait, à chaque fois. Vrai qu'il se fasse virer, qu'il aille trop loin, qu'il va, voilà, je trouvais que l'énergie qu'il insufflait dans son film, que Jean-Christophe Granger insufflait dans son livre, était très intéressant. J'aimais aussi le parti pris de France Télévisions, qui était d'oser une série noire, vraiment noire, pas édulcorée, avec des crimes vraiment affreux, avec des corps, avec du sang, avec pas d'amourette entre les deux policiers, avec, voilà, j'aimais en fait le côté radical du choix de France Télévisions de donner vraiment une couleur particulière à cette série.
Vous avez été surpris du coup du succès? Parce que c'est un carton, Les Rivières Pourpres,
c'est
hallucinant. Alors, c'est hallucinant.
Ouais, je vous avoue que moi je suis vraiment nulle en chiffres. À partir d'un certain nombre, ce n'est plus concret dans ma tête. Je ne savais pas à quoi il fallait m'attendre donc.
Oui.
Mais par contre, je trouve ça super et je trouve que du coup, France Télévisions a bien fait d'oser aller loin en fait. Parce que par rapport à votre première question qui est comment on fait, c'est éprouvant et tout ça, et ben, je pense que c'est éprouvant mais qu'on a besoin aussi. Et que si on regarde un peu, on parlait de Netflix tout à l'heure pour « À 2 heures de Paris », si on regarde un peu le catalogue de Netflix, il n'y a pas que des jolis films tout tendres. Et en fait, on va vers ça aussi. Et donc, je pense qu'ils ont eu raison de faire quelque chose d'aussi radical. Et le public le montre.
Alors, des guests, pendant cette saison, on va y découvrir celui que vous aviez découvert dans le film Simple, qui était assez incroyable, Sébastien Bouillon, qui est atteint de la maladie de Charcot. Et là, il est carrément flippant, Bastien. Il est assez incroyable, hein, dans le rôle de Werner.
Il est complètement flippant, on est d'accord. Mais tous ces personnages sont toujours tellement bien choisis, tellement étranges et tellement fragiles en même temps. Ça a été un partenaire très agréable, vraiment. Et pour Olivier et pour moi.
Erika, sans dévoiler, hein, sans déflorer bien sûr l'intrigue, vous avez peur des serpents ou pas?
Ah non, pas du tout. J'ai adoré, je trouvais ça trop chouette.
Ça s'est pas vu, on a cru vraiment Camille flipper quand même. Hein.
Ah ouais, bah, écoutez, j'ai 4 ans d'études quand même. Hein.
Bah oui. Hein.
Non, mais par contre, notre réalisatrice n'aimait pas tellement ça. Mais du coup, c'était rigolo, parce que les séquences de serpents, bah, c'est compliqué quand on n'aime pas trop les serpents.
Ben oui, voilà. J'imagine bien. On va découvrir évidemment cette enquête en fil rouge, hein, lors de ces 8 épisodes pour cette 3e saison. C'est parti pour 4 semaines de diffusion. Et puis, ben, si le succès est au rendez-vous, je suppose qu'une saison 4 des Rivières Pourpres verra le jour.
Ah ben, on verra. J'attends le coup de fil de France Télévisions. On est curieux de savoir si les spectateurs en ont marre de Pierre Niment et Camille Delaunay ou pas. J'espère qu'ils en ont pas marre.
On aime ce duo, en tout cas, qui fonctionne à merveille tous les deux. Et c'est ce qu'on disait, sans forcément voilà d'amourette ou d'arrière-pensée ou de choses comme ça. On a vraiment voilà deux flics bruts de décoffrage et voilà qu'on apprécie. C'est vrai que le duo fonctionne bien avec Olivier.
Oui, on s'aime beaucoup dans la vie et dans la série. Donc ça aide.
Mais ça se sent, en tout cas. Bon, on va suivre cette nouvelle saison, saison 3, Les Rivières Pourpres, c'est ce soir sur France 2 à partir de 21h05. On le suit, évidemment. Et puis moi, je vous souhaite tout plein de belles choses, Erika. Et puis à très bientôt.
Merci, bonne soirée.
Et tout de suite, voici la bande-annonce.
3 morts et on a toujours rien, putain. 3 meurtres pour un seul tueur.
Niman, vous pouvez me rassurer sur un truc, là? Vous et moi, on travaille toujours ensemble.
C'est pas elle, je te dis.
Toutes les vérités ne sont pas bonnes à déterrer. Le retour des Rivières Pourpres, avec 2 épisodes inédits, lundi soir à 21h05 sur France 2.
Coup de cœur télé consacré, eh bien, à la doc et le veto qui sera diffusé demain soir sur France 3. Un téléfilm inédit avec Michel Simès et Dounia Cossins, qui est justement notre invité. Bonjour Dounia.
Bonjour.
Quel plaisir de t'avoir dans cette période tourmentée. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, mais le bonheur est toujours intact de se retrouver, ma chère Doudou.
Oui, bah c'est pareil pour moi.
Bon.
C'est pareil, mais c'est vrai que c'est pas évident en ce moment.
Non,
mais bon.
C'est clair.
Je désespère pas.
C'est pas facile. C'est pas facile. Ouais. Mais en tout cas, eh bien, tu vas nous apporter une bouffée d'oxygène, une bouffée de bonheur, parce qu'on va, suivre les aventures de ce médecin, Emma Colin, que tu incarnes demain soir, mm-hmm. qui s'installe dans un désert médical. C'est très dans le cœur de l'actualité. Et c'est vrai que je pense qu'en campagne, tu vas incarner un médecin que beaucoup aimeraient voir arriver dans leur campagne.
Bon, écoute, c'est gentil. Oui, c'est vrai. En fait, bon, pour revenir à ce sujet-là, effectivement, il y a des déserts médicaux. Il y a de moins en moins de jeunes médecins qui ont envie de travailler dans des petits villages de France. Et c'est vrai que pallier à ça, il y a quelque chose qui a été mis en place un certain nombre d'années, qui est en fait au bout de ta deuxième année de médecine, si tu veux avoir une bourse, tu peux aller travailler dans un désert médical. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc oui, donc tu disais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien avoir Emma Colin en tant que médecin, mais c'est vrai que l'arrivée...
Un médecin, en règle générale, surtout aussi, aimerait voir arriver quand même un médecin dans des déserts médicaux où il est très difficile de se soigner aujourd'hui.
Oui, effectivement, mais même là où on a tourné à Bess et Sainte-Anastasie, ça faisait un moment qu'ils attendaient un médecin, parce que le médecin est parti à la retraite et ça faisait un moment que, donc ils sont obligés d'aller à Clermont-Ferrand pour aller se soigner, qu'il y a une réunion d'autre, quoi. Donc c'est quand même un vrai sujet. Ouais.
Une rencontre avec Michel Simès qui incarne Pierre, le veto, un peu bourru, un peu brut de décoffrage, une rencontre électrique dans un premier temps. Et c'est vrai que ce duo, moi je trouve, fonctionne à merveille entre vous deux.
Ben écoute, je suis ravie de l'entendre, mais c'est vrai que en tout cas, c'était une chouette rencontre avec Michel. On s'est tout de suite bien entendu et on joue aussi chien et chat comme ça dans la vie, donc je pense que ça se ressent aussi à l'écran. On a adoré travailler ensemble et Michel, c'est un bosseur qui a envie de bien faire et vraiment c'est très agréable de travailler avec lui. C'est même lui qui vient me chercher pour qu'on travaille. Moi, j'adore ça. Voilà, je suis sur un tournage, j'adore qu'on bosse jusqu'au dernier moment et Michel, c'est un bosseur, donc vraiment c'est très très bien entendu.
Alors pour le connaître un petit peu, on avait eu l'occasion de le recevoir pour Le Meurtre en Pays d'Oléron, justement, qui était son premier rôle à la télévision. C'est un grand bosseur, mais c'est aussi un grand déconneur, voire même un grand pince sans rire. On ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon avec Michel.
Oui, bon, quand on le connaît, après, on le sait. Hein, mais oui, c'est un grand déconneur. On a bien rigolé sur le tournage.
J'imagine.
Voilà, il a eu ses deux côtés là. Ouais, il a ses deux côtés très pro. Et puis, du coup, c'est ce qui fait de lui quelqu'un d'extrêmement humain aussi. Voilà, j'ai rarement vu quelqu'un comme ça sur un plateau qui allait voir toute l'équipe en demandant des conseils. Enfin, c'est une belle rencontre.
En pleine période de Covid, ça doit rassurer d'avoir un médecin quand même dans l'équipe.
Ouais, tout à fait. Ouais, vraiment. En plus, on était en plein dedans. Il y a plein de tournages qui s'est arrêté à cause du Covid. Enfin, on a eu la chance d'être un peu reclus dans un village et être un peu à l'écart de tout ça. On évitait les retours sur Paris le week-end et tout ça. Mais effectivement, les réunions Covid, ça rassurait vraiment d'avoir Michel sur plateau pour nous donner des petits conseils, pour nous donner de se rappeler, de se laver les mains, de rester à distance, voilà. C'était vraiment bien de l'avoir, ouais.
Comment s'est passée justement cette première rencontre avec Michel quand vous vous êtes vu la première fois?
Vraiment super parce que je le connaissais un peu de la télé effectivement, c'était pas sans rire et tout, mais bon, on se demande toujours si dans la vie est-ce qu'il est comme ça, est-ce qu'il est aussi sympathique et en fait oui, donc vraiment ça a été tout de suite, on s'est comme un peu Emma et Pierre comme les personnages, on s'est un peu titillé au départ pour voir la résistance de l'autre et puis en fait après on a déconné tout de suite et vraiment on s'entend très bien, donc voilà.
Alors le film est diffusé demain soir sur France 3, on va vous donner un petit tuyau d'ici quelques instants pour vous dire comment voir le film peut-être en avant-première ce soir si vous en avez envie. Mais moi j'ai eu la chance de le voir avant tout le monde et franchement, j'ai un goût de trop peu. J'ai envie de continuer à suivre ces aventures de Pierre et Emma. Et est-ce qu'on peut espérer, si l'audience est bonne mercredi matin, peut-être voir une série dérivée justement de ce film ?
J'aimerais beaucoup. C'est dans les papiers. Je pense qu'ils attendent aussi de voir si le téléfilm va marcher. Mais on croise les doigts. Je crois qu'ils sont en écriture pour un deuxième épisode. Voilà, j'ai envie de dire au public, si vous regardez, on fera un deuxième. Voilà.
Mais ils vont être nombreux. On va suivre en tout cas bien un fermier qui a quelques problèmes, on va dire, avec ses brebis. Et puis en même temps, sa femme qui est enceinte. Donc on va dire que l'arrivée d'Emma tombe à point nommé dans cet épisode que l'on va suivre demain soir. C'est des belles aventures. On parle évidemment de l'humain aussi, des animaux, du côté proche des animaux, des difficultés que rencontrent aussi des fois les milieux ultra ruraux comme ça.
Ouais.
Mais après toi, comment t'as vécu aussi ce mois un peu en autarcie comme ça, en Auvergne, pendant ce tournage?
Moi j'étais personnellement j'étais au courant un peu de ce qui se passait aussi pour les éleveurs, pour les déserts médicaux, tout ce qu'on défend dans le téléfilm, mais c'est vrai que de le vivre en étant sur place, vraiment ça m'a fait me rendre compte de plein de choses, et je suis du coup aujourd'hui très fière de pouvoir défendre ces sujets de société là, parce qu'on a tendance à en parler mais pas à les comprendre vraiment, nous citadins, voilà, mais là vraiment ça m'a plongée dans leur univers et je suis très heureuse de défendre ça parce qu'on en a besoin. On a besoin de ces agriculteurs, on a besoin d'avoir ces villages de France qui font quand même tout l'esprit de la France, quoi, j'ai envie de dire.
Mais oui.
Et en plus, nous, citadins, on veut manger bio, on veut machin, enfin, ouais, mais bon, si c'est ça, il faut aider justement ces villages-là qui se meurent petit à petit. Et vraiment, on est resté pendant, je sais plus, 2 semaines auprès d'un éleveur, parce que bon, il y a toute cette intrigue justement qui tourne autour de ça, et il m'expliquait que c'était très compliqué, que c'était devenu très difficile pour eux, et qu'ils savent pas trop comment ils vont s'en sortir. Donc je suis en tout cas très fière que France Télévisions ait fait un sujet là-dessus aussi touchant, et en plus dans le téléfilm, comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas d'histoire de meurtre, de tout autour de vraies problématiques des Français.
Ce que je disais, des animaux et de l'humain, finalement.
Voilà, des animaux et des humains, effectivement. Et tout ce, et puis en plus, ils vont vraiment dans le détail, c'est-à-dire qu'il y a bon le sujet financier des éleveurs, mais il y a aussi les maladies qui se transmettent. Et s'il y a plus de médecins, comment ils font? C'est-à-dire que là, bon, l'histoire, je vais pas spoiler, mais c'est vrai que une maladie sur une brebis peut engendrer une maladie sur un être humain.
Bien sûr.
Et du coup, il faut des services sanitaires, il faut qu'il y ait des vétérinaires, il faut qu'il y ait des médecins, et ça devient très compliqué dans ces zones-là. Donc voilà, on défend tout ça et vraiment, ça va dans le détail aussi. Puis ce truc de léguer aussi de génération en génération, les jeunes qui laissent tomber, on peut aussi comprendre. Mais voilà, il faut soutenir en tout cas tout ce patrimoine-là français qu'on a. Et si on veut continuer à faire en sorte qu'on ait des villages en France qui continuent à vivre, en fait. Voilà.
Exactement. Mais écoute, c'est un bel appel, en tout cas, à mon avis, une scène qui va rester dans ta mémoire longtemps et que l'on va voir dans le film. Alors, sans tout déflorer, mais on va suivre dans le film Naissance. Oui. Et là, je crois que c'était pas du fake, hein. C'était une vraie naissance, pour le coup, qui a été filmée, hein.
Alors, de quelle naissance tu parles? Parce qu'il y en a deux.
Allez, je lâche tout. L'agneau.
D'accord, ok. Alors oui, effectivement. Alors ça, c'était vraiment incroyable parce que, on attendait 2 semaines dans ce décor-là, donc avec toutes les brebis, et il y en avait plusieurs qui étaient enceintes. On attendait qu'il y en ait une qui mette bas, et en fait, Michel l'a vraiment fait, quoi. Donc il y avait l'éleveur à côté, hors cadre, pas qu'il soit filmé,
oui,
qui donnait des conseils, mais vraiment, Michel a sorti l'agneau de la brebis, et franchement, il a été courageux parce qu'il y a eu des complications. En plus, la patte était coincée, il fallait qu'il mette le bras dans la brebis, qui décoince la patte de l'agneau pour pouvoir... Enfin, on avait des moments un peu de stress que ça se passe mal aussi, parce qu'on n'avait pas du tout envie de faire mal aux animaux ou quoi que ce soit. Mais Michel s'en est très bien sorti, et il le fait vraiment, quoi. Donc, on a filmé ce moment qui est très émouvant. Et à la fois un peu stressant aussi, mais on a de belles images en tout cas, je trouve ça touchant.
La doc et le veto, on ne rate pas ce premier épisode, on espère d'une longue série qu'on va pouvoir suivre demain soir à 21h05 sur France 3. Et si vous avez envie de voir ce premier épisode en avant-première, ce soir, je vous conseille de vous connecter, de réserver votre place sur le site festivaldeluchon.tv qui va donc présenter en avant-première ce film sur l'édition numérique du festival. Alors je vous encourage dès maintenant à aller réserver votre place, c'est gratuit et vous pouvez voir donc ce très beau film en avant-première. Donc ce soir, je vous rappelle l'adresse festivaldeluchon.tv. Dounia, merci d'avoir été avec nous.
Merci à toi, Alain. Merci beaucoup.
On t'embrasse bien sûr très fort, et en attendant de vite se retrouver en vrai, bien évidemment. Et on va se quitter avec un petit extrait. Merci à toi, Dounia. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Allez, Emma, entrez, ne soyez pas timide. Vous êtes ici dans le service des pattes cassées. Vous voyez, par exemple, ce petit chat-là, eh ben, il a que 3 pattes. Il a été blessé par un piège à taupe. Puis là-bas, vous avez une poule, alors elle a de la chance parce qu'il s'est fait mordre par une fouine.
En fait, je récupère tous les éclopés, soit parce que je les ai trouvés lors d'une randonnée, soit sur la route, et puis parfois les gens m'en amènent aussi.
Vous réalisez, enfin je suppose hein, que vous réalisez que ces animaux répandent plein de microbes et de germes dans le bâtiment où je vais recevoir mes patients.
Ah bah oui, mais on a la campagne, hein. Et puis on m'avait pas prévenu qu'on allait me flanquer une toubib dans les pattes. Enfin, je veux dire qu'il fallait que je cohabite avec la médecine sérieuse.
Allez, coup de cœur télé consacré au crossover de Section de Recherche Alice Nevers. Ça sera jeudi soir sur TF1, le final de cette 14e saison. On a vu arriver un nouveau personnage, le personnage de Sandrine, incarné eh bien par notre amie Mélanie Maudran, qui est avec nous en ligne. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Ça me fait super plaisir de t'avoir. Je sais qu'en plus, t'es entre deux scènes. Tu nous as accordé ces quelques minutes. Ça me fait super plaisir de t'avoir parce que t'es en plein tournage d'Un Si Grand Soleil en plus en ce moment.
Oui, oui, oui. Le tournage se poursuit et il se poursuivait même d'ailleurs à l'époque quand j'ai tourné Section de Recherche. Je faisais mes petits allers-retours entre les deux plateaux et ça s'est fait. Donc ça, c'était chouette de pouvoir faire les deux en même temps à ce moment-là. Parce que c'est pas gagné à chaque fois de pouvoir honorer un tournage long, comme là, c'était le cas pour Section de Recherche, où quand même, ça s'est étalé sur quelques semaines, voire quelques mois, et ça a été possible malgré tout, malgré le tournage d'Un Si Grand Soleil.
Ouais, c'est super de pouvoir effectivement s'aérer aussi d'une quotidienne, et puis de pouvoir tourner d'autres choses, c'est aussi ça, le boulot de comédienne.
Oui, ouais, ouais.
Et là, on découvre Sandrine, la coloc de Jeanne Lorieux, la nouvelle arrivée. Et je crois que non seulement vous êtes les meilleurs amis dans la série, mais vous êtes devenus de sacrés amis dans la vie aussi avec Fabienne. Hein.
Mais c'est vrai, il y a des rencontres comme ça qui se font, généralement, c'est quand elles se font très naturellement. Et c'était le cas avec Fabienne, qu'elle débouche sur des amitiés fortes. On fait un métier, on rencontre beaucoup de gens, on fait souvent de belles rencontres. Mais là, c'est vrai qu'avec Fabienne, c'était particulier. C'est un peu comme si, je dirais pas que la réalité et la fiction se mélangeaient, parce que si vous regardez la série jusqu'au bout, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette relation qu'elles ont toutes les deux? Non, mais c'est quelqu'un de très simple, moi, qui a tout de suite fait écho en moi. Voilà, elle est facile d'accès, elle est simple, elle ne se prend pas la tête, on rigole. Puis de manière plus profonde, on partage aussi pas mal de choses. Donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je suis très heureuse pour elle que les choses se passent bien comme ça en ce moment professionnellement.
Alors c'est vrai que le personnage de Sandrine est complètement différent de Claire Estrella. Elle en est un personnage aussi avec ses noirceurs, des fois un peu plus sombre aussi, avec son côté, difficile. Donc c'est vrai que c'est un personnage complètement différent. Hein.
Oui, c'est entre autres ça qui était intéressant et qui m'a intéressée dans l'aventure Section de Recherche, c'est qu'on me proposait une autre partition et que j'allais pas rejouer la même chose que dans Un Si Grand Soleil. Voilà, c'est d'autres couleurs, c'est un autre personnage, c'est un autre univers et c'était chouette de pouvoir le faire.
Alors, il n'y a pas que ça, c'est que tu as tourné aussi à Meurtre à Mulhouse. Enfin bref, tu n'as pas arrêté en fait.
Ouais, non, ça s'est plutôt bien passé. L'année était très chargée. J'ai fait un Nina aussi.
Oui.
Qui n'a pas encore été diffusé. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il devrait être diffusé, mais ça ne devrait pas tarder, j'imagine. Et le Meurtre à Mulhouse, effectivement, j'ai tourné au mois de novembre à Mulhouse, comme son nom l'indique. Et au mois de novembre à Mulhouse, il fait très, très froid, en fait.
J'imagine.
Et ouais, ça m'a changé du sud, effectivement. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée tourner un peu plus haut. Et puis surtout, on a eu un été indien très longtemps. Enfin, il faisait très beau encore deux semaines avant le début du tournage. Et toute l'équipe a été un peu prise de court par les températures très, très, très faibles qu'on a eues en haut de Plateau des Vosges où on tournait. Donc, c'était une autre ambiance. C'est un tournage que j'ai beaucoup aimé faire avec Delphine Lemoine, qui est une réalisatrice avec qui j'avais déjà tourné d'ailleurs une Section de Recherche il y a des années, à l'époque où ça ne se tournait pas encore à Nice.
Oui, c'était dans notre région à l'époque.
Angoulême.
Mais oui.
Je crois que c'était Angoulême. Et voilà, et non, c'était une super aventure. C'était un mois de tournage très, très intense. Pareil, hein, tout autre chose à raconter, un autre personnage, une autre dynamique. Et c'est ce qui fait la richesse de ce métier. C'est pour ça qu'on aime faire ça.
Alors le personnage de Claire aussi dans Un Si Grand Soleil a accueilli une nouvelle venue à la maison avec Florence, c'est le personnage de Kaira. Pas toujours facile hein, cet ado
compliqué. Alors toi aussi tu dis Kaira. Alors
ouais.
Moi j'ai dit une fois tout le plateau avec la Tédrine.
Ouais.
Parce que c'est Kira qu'on dit.
Kira. Ah ouais, moi je dis Kaira, c'est vrai, ouais.
Mais Kaira Knightley, moi aussi j'étais partie à l'anglo-saxonne comme ça, mais non, c'est pas Kaira, c'est Kira.
Kira alors. Alors on dit Kira. Enfin voilà, une ado en tout cas vous avez accueilli à la maison avec Florent.
Voilà, avec des débuts un peu compliqués forcément.
C'est ce qu'on a vu.
Oui, c'est une gamine qui n'a pas traversé des choses faciles et qui arrive avec un paquet de casseroles et un maximum d'agressivité même à notre égard. Alors dès le début on se montre, on a envie de l'aider, on est là pour ça et on se ressemble à ce niveau-là avec Florent, on s'est bien trouvé. Et voilà, puis les choses finissent par s'apaiser et ça commence à ressembler vraiment de plus en plus à une petite famille entre Enzo, Kira, moi et Florent. Et c'est plutôt agréable, ça donne lieu à des moments sympas. On tourne des trucs très chouettes tous les quatre et on aborde ce thème de famille d'accueil, même de l'adoption hein, au sens large, voilà, donc qui est intéressant à traiter aussi, un sujet très intéressant.
Mélanie, est-ce que Section de Recherche est appelée justement si ça reprend pour une 15e saison, ce qu'on espère évidemment tous, est-ce que ton personnage est appelé à continuer?
Je veux pas trop dire ce qu'il en est de mon personnage à la fin des années.
Bah oui, parce qu'il nous reste 2 épisodes à voir, je suppose que tu peux pas trop en dire.
Voilà, ça d'avoir, mais en tout cas, c'est voilà, l'histoire n'est pas pourrait ne pas être terminée, je ne sais pas, mais à voir à l'issue de ces deux épisodes qui vont passer, vous allez certainement être surpris par la trajectoire du personnage déjà sur ces 3 épisodes à venir. Et voilà, parce qu'elle arrive vraiment à pas feutrer dans la série. On la voit pas venir, quoi. C'est vraiment l'amie de Jeanne. Et petit à petit, on va en apprendre beaucoup plus et sur Jeanne et sur elle. Et ce personnage va être assez haut en couleur.
J'ai hâte de découvrir ça. C'est jeudi, c'est à 21h05, c'est sur TF1. Et puis on te retrouve évidemment du lundi au vendredi aussi dans Un Si Grand Soleil à 20h45 sur France 2. Bref, on passe la semaine avec Mélanie Baudran pour notre plus grand plaisir. Merci en tout cas Mélanie de nous avoir accordé ces quelques minutes entre deux scènes.
Avec grand plaisir. Bonne soirée.
On t'embrasse très fort, à très vite.
Je vous embrasse, au revoir.
Qu'est-ce qui est fou, hein ?
Si je savais.
C'est l'employé de la société chargée d'entretien de la maison. Il vient tous les dimanches depuis un an et ce matin, c'est lui qui a découvert le corps. Donc, il a trouvé la porte d'entrée ouverte, mais a priori, il n'a pas été forcé. On est donc dans la résidence secondaire de Laurence Sauvageon. Elle descendait ici régulièrement les week-ends. Elle est PDG de Codex. C'est une boîte qui travaille pour l'armée.
Oui, qui fabrique des drones militaires en série.
Laurence Sauvageon était l'ancienne boss du commandant Lorieux. Jeanne travaillait comme ingénieur avant de venir à la SR.
Ça va, les 4 étages?
Ah oui, ça va, pourquoi ça irait pas? Bon, il a mis tout, le William Borel.
Juste là.
Super. Tu t'es rencardé sur lui ou?
Oui. Alors, il est directeur commercial chez Codex, la boîte de sa compagne, Laurence Sauvageon.
La meuf qu'on habite à Nice?
Oui, mais ils habitaient pas ensemble. Et depuis hier, on n'arrive pas à le joindre et personne ne l'a vu.
Je crois avoir compris pourquoi.
Dans un instant, notre spécial festival de Luchon avec la présidente Emmanuelle Aymar et Aïssa Maïga. C'est tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. A tout de suite.
Non. On ira voir la mer. Voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello. Bien qu'on n'ait rien su faire, on n'a plus rien à perdre. Un peu de ventre et d'égo, et quelques langues à défaire pour les revoir se plaire. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre qu'on est tendre, nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre, nous, nous, on ira voir la mer. Si la lune est claire, de quelques têtes hors de l'eau, un monde où tout se perd. Demain c'est juste hier, un peu laissé sur le dos, un peu blessé par les pierres qu'on n'a pas voulu perdre. Nous, nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. Nous, 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 nous on s'en fout.
écoute la télé, le Talk Show Radio. Chut, on écoute la télé, spécial festival.
De retour dans Chut, on écoute la télé. On va évoquer donc, on le disait il y a un instant avec Dounia, vous pouvez voir la doc et le veto ce soir en avant-première sur festivaldeluchon.tv. Vous réservez vos places et justement, on va en parler de ce festival numérique de Luchon cette année avec Emmanuel Aymar, sa nouvelle présidente, qui est avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors, pour une première édition, ça doit être un crève-cœur quand même de la proposer en numérique, mais c'est déjà tellement bien quand même.
Exactement. C'est vrai qu'on a eu du mal à accepter hein, le fait qu'on ne pourrait pas accueillir, comme tous les ans, notre public, nos talents à Luchon, mais il était impensable pour nous d'annuler. Et c'était très important de pouvoir quand même être présent sur cette édition 2021. Donc le numérique, on est quand même satisfait de pouvoir le présenter à notre public.
Mais nous, c'est un crève-cœur pour nous aussi. Hein. Je vous rassure de ne pas être avec vous là-bas pour cette première édition et de vous soutenir effectivement. Malgré tout, Emmanuel, vous avez fait un gros travail avec toute votre équipe pour proposer une édition, ce qu'on appelle numérique, un peu sur le modèle de ce qui s'est fait à Angers. Et donc là, on va pouvoir suivre une véritable compétition. On va pouvoir réserver des séances sur le site du Festival de Luchon pour voir en plus gratuitement des films en avant-première tout au long de la semaine et avec les équipes. Ça, c'est quand même aussi incroyable puisqu'il y aura les équipes en visio à la fin de chaque film.
Exactement. Écoutez, vraiment, j'étais très heureuse de pouvoir accueillir les équipes qui ont répondu présentes. Toutes, ça fait plaisir parce que c'est vrai que l'édition numérique, c'est pas forcément évident. On est tous, depuis cette année Covid, derrière nos écrans avec des réunions et du télétravail. Donc, pour nous, le fait de le proposer en numérique gratuitement, on a vraiment voulu un petit clin d'œil en disant oui, on sait que ça a été une année particulière. On sait que ce sera pas la même chose qu'en présentiel, mais on est là. Les équipes répondent présentes. On va vous montrer un beau spectacle, une belle programmation. Alors, vraiment, soyez avec nous. Voilà.
Alors moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que voilà, changement de présidence, donc une femme à la tête du Festival de Luchon. Eh bien, justement, c'est deux femmes qu'on retrouve à la tête des deux jurys, jury fiction et jury documentaire. Pourquoi ces choix-là? Racontez-nous.
Alors, pourquoi ces choix-là? Écoutez, c'est une petite anecdote que je vais vous raconter, puisque l'année dernière, sur la cérémonie d'ouverture, en fin de cérémonie, Patrick Timsit a pris la parole suite aux différents discours des intervenants. On tous parlait de parité et en fait, il n'y avait que des hommes pour parler de la parité. Et Patrick Timsit a souligné le fait que c'était bien beau, effectivement, de parler des femmes quand il n'y en a aucune sur scène. Donc, je me suis dit, je vais faire un petit clin d'œil cette année à ce discours et on va mettre la femme à l'honneur. Voilà, tout simplement.
Bon, alors pourquoi les choix justement d'Aïssa et de Rosalie? Est-ce que vous avez du mal à les convaincre ou est-ce qu'elles ont dit oui tout de suite déjà?
Ah non, elles ont dit oui tout de suite. C'était une évidence par rapport à leur parcours, à leur personnalité. C'était pour moi vraiment quelque chose qui me tenait à cœur pour cette première édition. Des femmes charismatiques, hein, je les ai contactées, on en a parlé, mais ça a été très rapide, elle était enchantée. Donc, ce qui est positif aussi, parce que dans le numérique, il y a aussi des choses très positives, c'est que si on avait pu tenir l'édition en physique, les emplois du temps des unes et des autres ne nous auraient pas permis justement de les avoir avec nous. Donc, grâce au numérique, on peut avoir ces deux très belles présidentes.
8 documentaires cette année en compétition, et une compétition évidemment unitaire aussi avec 6 films, dont le très attendu Il est elle pour TF1, ou encore Harcelé avec Claire Keim aussi, Les héritières, Je l'aime à mentir, des séances spéciales, on pourra voir Le meurtre dans les Trois Vallées en avant-première, ou encore un épisode de La faute à Rousseau, également en avant-première qu'on suit en ce moment, La doc et le veto, on le disait il y a quelques instants avec Dounia qui diffusait ce soir en ouverture, et puis des mini-séries aussi, c'est plus que jamais le festival des créations télévisuelles, parce qu'on va découvrir vraiment dans les séries et mini-séries, des séries qu'on a encore soit jamais vues, ou alors vraiment qui démarrent des saisons 2 ou 3 maximum aussi. Hein. Donc c'est aussi la nouveauté qui est à l'honneur.
Exactement. On a souhaité cette année vraiment redéfinir l'identité du festival qui s'était un petit peu ces derniers temps perdu. Donc on a voulu un festival avec au cœur de la création, si vous voulez, des programmes vraiment éclectiques, surprenants, bouleversants. Il va y avoir des moments forts dans tout ce que vous allez pouvoir regarder. apprécié aussi, effectivement, vous parliez de Il et Elle, TF1, qui prend un risque quand même. On n'est pas habitué à avoir ce type de programme. C'est un thème quand même transgenre qui est pas forcément abordé.
Ouais, il l'avait évoqué avec le film Louise. Oui. D'ailleurs, effectivement. Mais là, ouais, c'est un beau pari qu'ils font.
Exactement. Et moi, j'ai envie de voir des choses comme ça, si vous voulez, qui nous surprennent. Il y a énormément de choses à faire. Et donc, vraiment, cette programmation, écoutez, j'en suis assez fière. Voilà.
Alors, il y a des web-séries, évidemment, puisqu'on ne laisse pas de côté, évidemment, toute la partie web quand on fait un festival numérique. Hein. Et d'ailleurs, dans les web-séries, on avait parlé de cette série de Bayareas, Baby Clash, qui est en compétition, que moi, j'ai déjà vue et qui est vraiment très bien avec Mickaël Lumière, d'ailleurs. Et hashtag Résistance Bâtard, vraiment, on va pouvoir découvrir des pépites aussi du web. Hein.
Exactement. On a des pépites de toute façon, que ce soit dans le documentaire, le web, les unitaires, on a vraiment une belle programmation, on en est assez fiers.
Et la sélection espagnole qui n'est pas oubliée, évidemment, puisque Luchon, c'est aussi la porte de l'Espagne. Et donc, on va pouvoir découvrir trois fictions espagnoles aussi dans cette sélection numérique. Donc voilà, tout y est, franchement, Emmanuel.
Oui, tout y est. Il n'y a plus qu'à maintenant s'asseoir, profiter, regarder. Voter pour le public sur toutes les séries et avoir des échanges avec les équipes de films. Donc, quelque part, c'est un vrai festival, n'est-ce pas?
Exactement. Alors, Emmanuel, expliquez-nous maintenant, concrètement, comment voir tous ces films sur le site festivaldeluchon.tv. Comment nos auditeurs, là, maintenant, peuvent faire? Puisque là, l'avantage d'avoir un festival en numérique, c'est que vous soyez n'importe où en France, vous pouvez assister au festival.
Exactement. Vous pouvez assister au festival, vous vous connectez, vous vous inscrivez surtout, puisqu'il y a également des jauges. Donc, c'est important de pouvoir s'y prendre un petit peu à l'avance, s'inscrire pour pouvoir donc assister à la projection et après avoir les échanges avec les équipes de films. Ce qui est important, c'est de s'inscrire à l'avance pour ne pas être frustré après, évidemment, hein, puisque cette histoire de jauge, comme dans les salles, on a des jauges à respecter. Voilà.
Et vous pourrez bien sûr, à l'issue de chaque projection, poser via le chat vos questions aux équipes de films. Ça aussi, voilà, c'est un beau pari que vous avez fait et qu'on va voir donc dès ce soir après la doc et le veto.
Oui, c'est ça.
Emmanuel, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, le Festival de Luchon ouvre ses portes. C'est parti pour une semaine de fiction inédite, d'avant-première exceptionnelle, documentaire, mini-série, série, téléfilm unitaire, web également, des séances spéciales, une sélection espagnole. Tout y est pour un festival réussi et on a hâte en tout cas de vous retrouver en physique l'année prochaine. En 2022 sera l'année du retour à Luchon sur place.
Eh oui, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis donc bon festival et à l'année prochaine.
Merci Emmanuel, à très bientôt.
Au revoir.
Cette année, la 23e édition du Festival de la télévision de Luchon se décline en numérique. Venez découvrir gratuitement les nouvelles créations télévisuelles inédites du 10 au 14 mars. Projections de films, interviews et invités sont à retrouver sur festivaldeluchon.tv.
Et on continue évidemment à parler du Festival de Luchon. Après la présidente, évidemment, du festival, voici la présidente du jury fiction qui est avec nous, Aïssa Maïga. Bonjour Aïssa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a eu le plaisir de se rencontrer déjà, évidemment, pour Il a déjà tes yeux, cette super série qu'on avait vue sur France 2 et le film, évidemment aussi, et plein d'autres projets. Mais Aïssa, là, c'est présidente du jury fiction du Festival numérique de Luchon. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, que ça soit un festival numérique ou physique, pour le coup?
Effectivement, ce sont deux choses différentes que, d'une part, d'aller dans un festival, de prendre le train, l'avion, d'aller à la rencontre des gens, de regarder les films en salle, etc. Et, par ailleurs, de regarder le film de chez soi, sur son ordinateur ou sur sa télé. Voilà, ce sont deux propositions complètement différentes. Mais quand Emmanuel Aymar, donc la présidente du festival, m'a contactée, j'ai senti chez elle une envie de faire vivre cette édition un peu particulière en pleine crise sanitaire. Et en fait, elle m'a communiqué son enthousiasme. Moi, j'ai eu à cœur aussi de soutenir le festival en apportant ma petite contribution. Et puis, c'est la première année d'Emmanuel Aymar en tant que directrice de ce festival-là. Donc, j'avais aussi envie de la soutenir. Et puis, je pense que c'est important aussi de soutenir les œuvres, soutenir les créateurs des œuvres, de soutenir les interprètes des œuvres, les producteurs, parce que c'est une année tellement compliquée, bon, pour tout le monde, hein, mais aussi pour la culture, que que c'est important d'insuffler comme ça des ondes positives. Et puis, on va pouvoir décerner des prix. C'est une vraie réjouissance de se dire que tous ces créateurs vont déjà ont été sélectionnés. Ça, c'est une belle,
ah oui, c'est une première étape.
Une belle reconnaissance. Mmh. Et aussi, potentiellement, d'être récompensé.
Ça fait quoi d'être de l'autre côté, du coup, ce coup-là? Alors, vous allez être quel style de présidente? Vous allez regarder quoi en premier dans une œuvre, pour le coup?
Alors d'abord, je vais privilégier la démocratie.
C'est pas mal.
voilà, ça va être un moment de délibération très intéressant, je pense, avec les autres jurés, parce que les points de vue sont toujours riches, particuliers, chacun se... a envie de soutenir une œuvre en particulier, et puis on a pas toujours les mêmes avis. Je sais que ça va être des moments de discussion très riches. Et puis, ce que je vais regarder en particulier, c'est d'abord cette première chose, est-ce que je vibre?
Ouais.
Est-ce que avant d'être une actrice, je suis aussi une spectatrice comme les autres? Et donc, quand je regarde un film, une fiction, j'ai envie d'être embarquée, j'ai envie d'être surprise par le sujet ou par la manière dont le sujet est abordé. J'ai envie de vibrer avec les comédiens, les comédiennes. J'ai envie de regarder quelque chose qui esthétiquement soit beau. Voilà, il y a plein de critères qui entrent en ligne de compte, mais je vais pas arriver avec une grille de lecture préétablie. Hein.
Et vous allez vous laisser embarquer. En tout cas, pour assister à toutes les projections du Festival numérique de Luchon, il suffit de vous rendre sur le site festivaldeluchon.tv. Vous vous inscrivez pour ensuite les avant-premières qui vous intéressent et vous pourrez donc y assister avec en plus les équipes de films à la fin. Aïssa, pour terminer, vos projets pour 2021?
Alors moi, je viens de réaliser deux films.
Oui.
Deux films de documentaires. Un premier que j'ai co-réalisé avec Isabelle Simeoni, qui s'appelle Regard Noir et qui est un voyage qu'on a effectué en France, aux États-Unis, au Brésil, autour de la question de la représentation des femmes noires et plus généralement autour de la question de l'altérité, de la représentation, des stéréotypes et de la façon dont on peut améliorer les fictions. C'est un voyage aussi à la rencontre de personnes incroyables de l'industrie du cinéma en France, aux États-Unis, au Brésil. On a rencontré des gens formidables. Et puis, c'est aussi l'occasion de voir quelles sont les initiatives positives qui sont mises en place ici ou ailleurs. Et l'autre documentaire, ça s'appelle Marcher sur l'eau. Et ça, alors ça, j'en parlerai beaucoup plus peut-être en fin d'année ou en début d'année prochaine. Et c'est un documentaire que j'ai tourné au Niger autour de la question de l'eau et du réchauffement climatique.
Bon, Aïssa, en tout cas, le rendez-vous est pris. Et puis, moi, je trouve que c'est un très bon choix, en tout cas, de vous avoir pris en tant que présidente, parce que vous êtes la preuve vivante qu'une comédienne peut aussi bien aller du côté cinéma, théâtre, télévision. Vous oscillez dans tous les domaines. Et c'est ça qui est chouette, c'est de pouvoir vous voir dans des rôles aussi différents et sur tous les supports. Voilà, c'est important de le dire.
Merci infiniment. Merci beaucoup. Et puis, merci pour toute la lumière que vous apportez pour le Festival de Luchon. J'espère que les spectateurs vont se régaler, qu'ils vont pouvoir regarder tous ces films, chatter avec les équipes des films, et puis voilà, vivre de très beaux moments de fiction.
Eh bien, on l'espère aussi. Merci beaucoup, Aïssa, à bientôt.
Bonne journée, merci à vous, au revoir.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et on va se retrouver lundi prochain avec bien sûr de nouveaux invités, de nombreuses surprises. On fêtera notamment le 100e épisode d'Ici tout commence et plein d'autres encore choses qui vous attendent. Mais restez connectés évidemment avec nous.
Radio Valévisère
104.4 sur le Terrassonnais, 98.5 sur le Sarladais, la radio de l'homme au pays de l'homme.
Allez, n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé, c'est également toute la semaine avec la quotidienne à 7h45, 12h45 et 18h45 sur Radio Valévisère. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, rien de plus simple, rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram. Chut, on écoute la télé. Téléchargez dès maintenant nos applications pour iPhone et Android. Chut, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée ce soir à partir de 19h. Et je vous retrouve donc également lundi prochain à 11h et à 19h pour la grande hebdo. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Radio Valévisère.
Chut, on écoute la télé avec votre magasin But Cozy de Sarlat. Ameublement, literie, électroménager, décoration et pour tout projet de cuisine, l'équipe de projet et conception vous attend avenue de la Dordogne à Sarlat.
Chut, on écoute la télé avec Real Chocolat, votre artisan chocolatier. Chocolat sous toutes ses formes et pour tous les goûts. Guimauve, nougat, la fameuse pâte de fruits et les nombreux coffrets gourmands à découvrir dans votre boutique à Sarlat, 3 rue de la Liberté et sur real-chocolat.com. Real Chocolat fait naître la gourmandise.